La nuit du 4 août, reportage historique par Georges Girard. Ce fut très touchant, me dit M. Carman de Casteljaloux, et de nature à faire verser aux âmes sensibles des torrents de larmes. À qui donnerais-je la plume de l'éloquence, au duc d'Aiguillon, au vicomte de Noailles? L'un et l'autre trouvèrent les accents les plus sublimes pour échauffer nos cœurs et régénérer la France. Au fait, que nous dirent-ils? Que dit surtout M. le duc d'Aiguillon, qui, en cette circonstance, se montra homme de bon sens autant qu'honnête homme? Il dit « Il n'est personne qui ne gémisse des scènes d'horreur dont la France offre aujourd'hui le spectacle. Depuis le 14 juillet, pas tout à fait 3 semaines, il semble qu'une vague de folie se soit abattue sur le pays. Voilà par toutes nos provinces le peuple qui s'arme et comme autant de Bastille envahit nos châteaux. En a-t-il à nos personnes? Non, il en a à nos titres de propriété. » C'est eux qu'ils recherchent pour les brûler ou les faire disparaître. Or, messieurs, je n'excuse pas cette insurrection. Toute insurrection est coupable. Mais enfin, je lui cherche une raison. Ne serait-elle pas dans les vexations dont le peuple est victime? Vous me répondrez que, personnellement, vous n'êtes pas responsable de ces vexations. D'accord. Mais vos gens d'affaires le sont. Et le malheureux cultivateur, soumis au reste barbare des lois féodales qui subsistent encore en France, gémit de la contrainte dont il est victime. Tenant compte de l'état d'esprit présent, ne serait-il pas juste, opportun et habile à la fois, de donner satisfaction à tous, de payer notre tribut au désir unanime d'égalité en renonçant à des droits vexatoires? Un transport de joie inexprimable accueillit cette proposition qui répondait au désir confus de toute l'assemblée de faire quelque chose. Où en est-elle déjà plus d'accord? C'est sur ce qu'il fallait faire. Le vicomte de Noailles demandait l'abolition sans rachat des corvées seigneuriales. Le duc d'Aiguillon proposait lui l'abolition contre rachat des droits féodaux, car, disait-il, l'équité défend d'exiger l'abandon d'aucune propriété sans accorder une juste indemnité aux propriétaires. En fait, continua M. de Casteljaloux, je ne vous apprends pas que ce qui est prévalu, ça a été le système de l'abolition pure et simple. Qui a vécu les émotions de cette nuit historique s'en souviendra jusqu'à son dernier soupir. Chacun, piqué d'une généreuse émulation, apportait à la tribune, comme en offrande à l'autel de la liberté, quelqu'un de ses droits les plus chers. Suppression des gros traitements militaires, demandait le marquis de Foucault. Accession libre à tous les emplois, demandait M. Cotin. Suppression du droit exclusif de chasse, réclamait l'évêque de Chartres. Suppression du droit exclusif de Colombier, rétorquait la noblesse. Suppression de tous les privilèges des États provinciaux, décrétait l'Assemblée. Aux premières lueurs de l'aube, on cherchait encore quoi supprimer, et on trouvait toujours. Ah, monsieur, comme elle a raison, cette feuille publique, où je relève ces lignes. En une nuit, la face de la France a changé. L'ancien ordre de choses que la force a maintenu, malgré l'opposition de 100 générations, a été renversé. En une nuit, l'arbre fameux de la féodalité, dont l'ombre couvrait toute la France, a été renversé. En une nuit, l'homme cultivateur est devenu l'égal de celui qui, en vertu de ses parchemins antiques, recueillait le fruit de ses travaux, buvait en quelque sorte la sueur et dévorait le fruit de ses veilles. Sic. Oui, je sais ce que vous allez m'objecter, reprit M. de Casteljaloux. Après la nuit du 4 août, il y eut la journée du 5, pendant laquelle on a commencé à réfléchir, et en somme, ce n'est qu'aujourd'hui, 11 août, que les décrets vont être prêts. Dès qu'on est arrivé à la discussion des articles, bien des difficultés ont surgi. Et, monsieur, quoi d'étonnant à cela? Résumons, si vous le voulez bien, les avantages tangibles que le peuple doit attendre de la nuit mémorable où l'Assemblée accoucha de l'égalité, non pas avec les cris de douleur de la Fabrangésine, mais les hurlements d'allégresse du fond ses moyens montrant son âme sensible. Les droits féodaux qui opprimaient le peuple encore le 3 août, quels étaient-ils? Je vous citerai les corvées, le droit de pêche, le droit de chasse, le droit de circulation, le droit de glander, les fours banaux, le cens, ou droit de fief et arrière-fief, et la rente. Les corvées. Qu'on nous apporte, s'est écrit M. Le Guen de Kerangal, député de la Basse-Bretagne, dans un beau mouvement d'éloquence, qu'on nous apporte ces titres qui obligent les hommes à passer les nuits à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leur voluptueux seigneur. Et l'Assemblée unanime a supprimé la corvée de grenouilles. « Qu'on nous apporte, a dit le même, qu'on nous apporte ces titres qui humilient l'espèce humaine en exigeant que les hommes soient attelés à une charrette comme les animaux du labourage. Et l'Assemblée a supprimé les derniers serfs. Ici, permettez-moi de vous faire observer, jeune homme, que le cadeau fait au peuple a été plutôt modeste. Les seuls serfs du royaume étant aujourd'hui ceux des abbayes d'Arbois et de Poligny, et tout ce qu'ils ont à gagner à leur changement de condition, c'est d'être désormais sujets des tribuneux ordinaires. Mais passons. Les droits seigneuriaux, maintenant. Le droit exclusif de chasse. Croyez-vous que le seigneur le possédait bien, et que le manant le lui payait? Notez d'ailleurs que la suppression de ce droit a été demandée par le clergé, qui ne chasse pas. À ce jeu, tout le monde s'est piqué d'émulation. Et moi, qu'offrirai-je? Déclara le vicomte Virieux, qui a des lettres. Au moins le moineau de Catulle. Et c'est pourquoi on a supprimé les droits sur les colombiers. De même, c'est sans difficulté qu'ont été abandonnés les droits de glander, exigés des manants pour laisser leurs porcs manger les glands tombés des chênes seigneuriaux, les droits de circulation touchés pour traverser les propriétés du seigneur, ceux de four demandés pour faire cuire le pain. Dans le même esprit, poursuivit M. de Casteljaloux, nous n'avons pas hésité à renoncer aux droits de fief et arrière-fief. Taxe minime n'ayant pas varié depuis le règne de Philippe Auguste, alors que le prix de la vie n'a cessé d'augmenter. Par contre, nous conservons la rente, c'est-à-dire la somme d'argent annuel que nous recevons pour loyer de notaire. Ainsi est sauvegardé le principe équitable qui veut que soit respectée la vraie propriété. Ce que j'attends de tout cela, mais monsieur, le retour à la paix, au calme et à la tranquillité. Le peuple désormais comblé n'a plus rien à exiger, encore moins à prendre. L'ordre nouveau étant établi sous l'égide de notre roi, c'est une longue ère de prospérité qui va s'ouvrir. L'impôt étant égal pour tous, c'est fini désormais des abus de la fiscalité, de cette inquisition perpétuelle et de cette tyrannie qui, à la fin, pesait trop lourd aux épaules des Français. Ah, nos arrière-petits-enfants nous béniront, croyez-moi, à moins qu'ils ignorent toujours à qui ils doivent de connaître la douceur de vivre dans un état libre, ennemi du despotisme. Notre œuvre, d'ailleurs, est perfectible, et peut-être demain la parachèverons-nous. Tous les Français étant égaux, ne serait-il pas équitable, monsieur, de leur permettre de servir tous sous les drapeaux et de ne plus réserver cet honneur à des mercenaires privilégiés? Creusez cette idée, monsieur, et dites-moi s'il est tolérable, pour des hommes libres, de n'être pas admis à porter les armes. Nous avons déjà fait un premier pas dans la voie du progrès, d'ailleurs, en donnant la libre accession au grade. Songez, monsieur, qu'un jour viendra où tous les arrière-petits-enfants de nos manants seront capitaines ou bien sergents-majors. Si j'ai voté tous les articles du décret, monsieur, tous, de fourbanal, je n'en ai point, de colombier, pas davantage. Je n'ai jamais pêché sur le coteau rocailleux de mon manoir de Dordogne, et dans ce pays heureux où les cigales chantent pour tous, jamais les grenouilles ne m'ont empêché de dormir. Pourquoi je me serais abstenu? Une chose m'a contrarié, il est vrai. C'est la suppression du droit de chasse. C'était un coup de l'évêque de Chartres. J'ai répondu en proposant la suppression des dîmes ecclésiastiques. Inutile de dire que la noblesse l'a voté par acclamation. Ainsi s'achève la nuit du 4 août, reportage historique par Georges Girard.